autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour des rencontres imprévues et singulières qui vont nous entraîner jusque chez les Inuits du Groenland, les Maasai de Tanzanie et les Soussous de Guinée dans les carnets de route de l'ethnologue Philippe Gesselin, mis en scène par Macha Makeyev, des âmes offensées, qui résonnent en écho avec Peau d'âme, un ovni cinématographique réalisé par Pierre-Oscar Lévy avec l'archéologue Olivier Véler, parti fouiller les traces laissées par le film Peau d'âne de Jacques Demy. Mais pourquoi donc faire l'archéologie du merveilleux, l'archéologie du cinéma et des contes de fées? Comment mettre l'ethnologie en scène et pourquoi ça nous touche tant? Regard croisé de nos invités autour de la question comment rendre sensible l'aventure scientifique. Bienvenue. Bonjour Macha Makeyev.
Bonjour.
Bonjour Philippe Gesselin.
Bonjour.
Bonjour Olivier Véler.
Bonjour.
Et nous attendons Pierre-Oscar Lévy. Merci à vous d'être en direct avec nous. C'est tout de même assez rare d'être aussi bien entouré par des profils aussi riches et variés et qui ne manquent pas de sel en plus. On va y venir pour nous demander comment faire passer l'aventure ethnographique et archéologique sur scène et au cinéma. Commençons par le premier duo, si j'ose dire, chercheur et metteuse en scène, formé donc par Philippe Gesselin et Macha Makeyev, autour des âmes offensées, un vrai voyage, une étonnante conférence, ce spectacle original que j'ai eu le plaisir de voir au Théâtre de la Criée à Marseille et que vous rejouez, Philippe Gesselin, au Théâtre Lévi-Strauss du musée du Quai Branly à Paris les 15, 16 et 17 juin prochains. Avant d'être sur scène, vous êtes d'abord ethnologue, Philippe, fondateur et directeur du laboratoire de recherche en anthropotechnologie de Neuchâtel en Suisse. Une discipline, l'anthropotechnologie, que vous avez contribué à développer à travers vos nombreux terrains de recherche en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Groenland. Dans les âmes offensées, sur scène donc, vous nous faites partager vos carnets de route chez les Inuits au Groenland, chez les Maasai en Tanzanie et chez les Soussous en Guinée. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ces terrains-là, Philippe Gesselin?
Pourquoi ces terrains-là? Parce que ce sont des terrains qui, pour moi, sont emblématiques de ma vie d'ethnologue et sont aussi, avant tout, des terrains sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps, puisque j'ai en moyenne plusieurs dizaines de missions à chaque fois sur ces terrains-là. Donc il y a une espèce de profondeur historique en termes de recherche ethnographique qui me permet de penser que je peux porter un regard assez spécifique sur ces communautés à travers le monde.
Les âmes offensées, c'est le titre de ce spectacle, de ce triptyque, imaginé et mis en scène par vous, Macha Makeyev. Vous êtes auteur et metteuse en scène, plasticienne également, aujourd'hui directrice du Théâtre de la Criée à Marseille. Pourquoi et comment vous est venue cette idée, pas si saugrenue que ça, et joue bien Philippe, de faire monter Philippe Gesselin sur scène?
Parce que c'est là, tout est affaire de rencontres et... Il y a déjà un moment que je voulais faire entendre le discours scientifique et notamment celui des sciences humaines sur un plateau de théâtre. Je pense qu'on a à se dire et on a à faire ensemble et la rencontre avec Philippe a naturellement débouché là-dessus. C'est d'abord le fruit d'une très longue conversation et de croisements entre nos regards, nos goûts des objets aussi et...
Oui, et les objets très importants sur scène, les photos de Philippe, on est embarqué sur un plateau qui est rond comme une planète, il y a des sons, enfin, c'est vraiment tous nos sens qui sont interpellés.
Oui, ce sont les trois spectacles, sont trois voyages, c'est-à-dire ils sont à la fois, je pense, sur le plan scientifique absolument exigeant, mais en termes de sensations, de réception, ils peuvent s'adresser à quelqu'un qui n'entendrait même pas notre langue, et peut-être un petit bonhomme de 10 ans, une petite fille de 8 ans, ils seront sensibles.
J'en ai vu dans la salle d'ailleurs.
Oui, c'est ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est ce spectre le plus large possible.
Et pourquoi ce titre, Les âmes offensées?
Alors ça, c'est Philippe qui l'a proposé. Et évidemment, moi, j'ai souscrit parce qu'il y a une résonance qui a à voir aussi avec le théâtre. Et je pense que nous faisons l'un et l'autre, après tout, la même approche du monde. On a quelque chose à réparer, de toute évidence.
À réparer, aujourd'hui, oui. Philippe Gesselin, ces âmes offensées, celles des Inuits, celles des Maasai, celles des Soussous.
L'origine du titre de cette trilogie, ce triptyque, en fait, vient de mon expérience de terrain au Groenland, mais dans d'autres communautés à travers le monde aussi, où on hérite toujours des manières de penser et d'agir de ses ancêtres. Et on est toujours la somme de toutes ces connaissances, de toutes ces vies. Et quand je vais sur ce terrain-là, je me rends compte qu'on a tendance à imposer des choses à ces communautés sans prendre en compte le fait que chacune de ces femmes, chacun de ces hommes est une somme de connaissances, de compétences sur lesquelles on pourrait s'appuyer avant de leur imposer nos modes de pensée, nos modes de représentation. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce spectacle « Les âmes offensées ».
En tout cas, ça marche, ça fonctionne. On est embarqué sur ce plateau qui rond comme une planète. Vous faites appel à toutes nos émotions. Le voyage commence tout de suite sur RFI avec ce montage extrait de la bande-annonce du spectacle « Les âmes offensées ».
Dire la continuité des mondes, rechercher dans les moindres détails les attitudes intactes du passé, celles décrites par nos aînés, celles de nos rêves de gosses. En ethnologue, je sais que cette collecte est vaine, ou presque. Et pourtant, chacun de mes périples est un recommencement, un quasi-entêtement. Prendre le temps en vagabond sensible, curieux et exigeant. Déplier les territoires des êtres et des choses, en révéler les coulisses, en restituer le sensible et l'anodin. Dans ces contrées lointaines, c'est dans l'imperceptible et le ténu qu'on saisit l'univers. Mon appareil photographique en carnet d'aquarelle, plus qu'en carnet de notes. J'aime l'effort d'exploration, le temps de pause qu'elle demande à ceux qui la regardent. La photographie, écrit Pierre Macorlan, remet l'homme à sa place dans le décor. Cette place n'est pas celle d'un dieu créateur, mais d'un dieu mélancolique, victime de ses créations.
Déambulation chez les derniers chasseurs inuits, peau d'ours sur ciel d'avril. On vous entend aussi en photographe, Philippe Gesselin, parce que vous êtes un ethnologue, on parle de carnet de route, vous écrivez, vous photographiez, il y a beaucoup de sons aussi sur scène.
Oui, je tiens beaucoup à la photographie. Je photographie et j'expose des photographies dans les communautés au sein desquelles je travaille.
Vous retournez les voir avec vos photographies.
Je reviens toujours et je les expose avec eux. Voilà, et au sein des communautés. Et c'est pour moi, oui, c'est pour moi un mode d'expression littéraire. Voilà, et j'y tiens beaucoup.
Auquel vous avez dû être sensible, j'imagine, Macha Makeyev, parce qu'on sent dans ce spectacle à la fois un éloge de l'ailleurs, du singulier, de l'universel, les deux se parlent, se touchent et se rencontrent. Pour vous, les objets sont importants et on est avec Philippe Gesselin, avec ses interrogations aussi, avec sa subjectivité.
Oui, avec une forme de solitude qui a à voir avec celle de l'acteur.
L'ethnologue et l'acteur.
Oui, c'est-à-dire que l'acteur ou la personne qui fait le théâtre, c'est-à-dire il y a quelque chose d'une exposition, d'un engagement absurde. Et de temps en temps, je me dis, pourquoi tu repars? Et moi, je me dis, pourquoi je recommence? Il y a quelque chose d'à la fois absolument excitant et totalement douloureux. On sait d'avance qu'il y a une mélancolie derrière tout ça. On en reviendra un peu plus cassé. Mais ce qui m'importait, c'est évidemment que chez Philippe, il y a une fibre artistique évidente, mais il y a aussi dans ces sciences humaines quelque chose d'une première fois. Bon, quand j'ai lu les Lévi-Strauss et tant d'autres, Mallory, il y avait une exploration de l'humanité dont il fallait rendre compte. Et j'adore la langue du carnet de l'explorateur.
Je pense qu'elle peut parler à tout le monde. Explorer les autres, c'est évidemment aussi s'explorer soi-même. Et ça nous renvoie, ce n'est qu'un miroir perpétuel.
Oui, et là où nous en sommes
aujourd'hui.
Oui, et dans cet explorateur, c'est-à-dire au fond dans cette solitude. Voilà, moi ça me fascine. J'y vois un acte poétique aussi, et pas forcément seulement de l'intelligence. Et après tout, c'est bien sûr qu'il y a des gens qui réfléchissent aux autres sociétés, aux autres communautés, etc. Et c'est très bien, le travail de l'esprit, c'est indispensable. Mais là, c'est avec le corps. Donc c'est cet engagement, revenir fatigué, fourbu, abîmé, pas exactement comme avant. Y avoir laissé quelque chose, s'y être consumé. C'est pas rien, c'est-à-dire c'est vraiment être au monde là-bas.
C'est de la science incarnée.
Et ça
le coup,
me plaît
sensible,
aussi de prendre cette la carcasse de ce personnage-là et de la montrer là sur le théâtre. Je pense que la célébration sera encore plus forte parce que le théâtre est la célébration de quelque chose toujours. Donc la restitution d'un carnet, il y a une dimension magique, oui, dans le sens surréaliste du terme, et forcément nos vies et notre rencontre est forcément comme un collage, mais je crois beaucoup à la puissance de ces hasards, en plus traversés par la pensée de cette science. On aurait tendance à croire fragile et inexacte, mais elle a une telle vérité, peut-être davantage que les sciences exactes. Donc, enfin, moi, elle m'intéresse en tout cas.
L'ethnologie, science incarnée, c'est pas vous qui direz le contraire.
Non, loin de là. Loin de là.
Je propose de quitter les planches ethnographiques pour creuser un peu un autre terrain, notre autre terrain archéologique et cinématographique avec notre autre duo de chercheurs. On attend toujours le réalisateur Pierre-Oscar Lévy, mais nous avons ici présent l'archéologue Olivier Véler, donc figure principale de ce film étrange, peau d'âme, étrange et merveilleux, qui nous plonge dans une sorte de conte de fées. Retour archéologique sur le chantier où Jacques Demy réalisa Peau d'âne avec Catherine Deneuve. Ambiance sur ce chantier de fouilles avec cette chanson improbable fredonnée par les fouilleurs et les fouilleuses de Peau d'âne, Peau d'âme.
Et m'aimes-tu plus fort désormais? Il aura suffi d'une fouille dehors. Il aura fallu un bel amour. Mais qu'allons nous faire de tous ces trésors? Les montrer ou ne rien en faire. Le plus beau dans l'archéologie, c'est la preuve qui vient de la terre. Rendre vrai ce qui fut légendaire, redonner aux objets leur vie. Mais qu'allons ces trésors, les montrer ou ne rien en faire. Nous avons transgressé l'interdit, nous avons planté plein de fourchettes, retrouvé des fumes cigarettes, ramassé de la
Béroterie. Et qu'allons-nous faire de ces souvenirs?
Il y en a tant sous terre.
Mais qu'allons-nous faire de ces souvenirs? Il y en a tant sous terre de tous ces trésors. Pourquoi?
Je vous le demande, Caroline.
Eh ben oui, Olivier Véler. Moi, je vous pose une autre question, c'est pourquoi et comment faire l'archéologie du merveilleux, l'archéologie du cinéma et des contes de fées, quand on est, comme vous, Olivier, spécialisé dans l'étude et l'exploitation et la production du sel au néolithique? Quelle mouche, je sais pas, archéologique ou cinématographique vous a piqué?
Alors, pourquoi faire de l'archéologie, oui, de l'imaginaire?
C'est ça.
D'abord, pour sortir, j'allais dire, de ce que fait l'archéologie contemporaine d'habitude en France, c'est-à-dire que l'archéologie du XXe siècle en France ne s'intéresse malheureusement qu'à du traumatisme, c'est-à-dire qu'aux guerres, aux massacres, à l'internement, des camps de prisonniers, des tranchées.
On fait l'archéologie des guerres, mais on fait pas l'archéologie des conflits.
Quand on s'intéresse au XXe siècle, oui, on s'intéresse qu'à la violence, en fait. La violence, l'internement, voilà. Et donc, c'était aussi pour sortir de ça et de faire autre chose. Et là, l'archéologie du cinéma, qui est une première à la fois en France, en Europe et quasi au monde, parce qu'il y a une autre opération, en fait, en Californie, autour des décors du film de Cécile B. 2000, Les Dix Commandements de 1923, le tout premier Cécile B. 2000. C'est aussi faire une archéologie de son enfance. Donc, on est aussi dans le monde du sensible. Et puis, c'est aussi tester la discipline, si j'ose dire. Parce que là, loin de la préhistoire, enfin, on a des témoins, on a des gens, on a la parole, des quelques souvenirs. Donc, on peut enfin croiser...
De ceux qui ont participé au tournage.
Témoins, techniciens, figurants. Donc, on peut croiser, en fait, d'un point de vue méthodologique, à la fois les 4000 objets qu'on a trouvés en fouille archéologique.
C'est énorme, en fait.
C'est énorme, voilà. Ce tournage donc qui date de l'été 1970 dans le parc d'un château dans les Yvelines, le château de Neuville à Gambais. Donc on peut croiser à la fois la réalité matérielle, à la fois les souvenirs, à la fois les textes et les photographies que nous ont gentiment offert la famille Varda-Demy, et puis la fiction. la fiction elle-même, le rendu, l'œuvre artistique.
Parce qu'il y a de la fiction. Bonjour Pierre-Oscar Lévy.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints, mais tout va bien.
Pardonnez-moi pour mon retard.
Vous êtes, on vous pardonne complètement, puisque vous êtes le réalisateur de ce film étonnant. Vous êtes d'ailleurs réalisateur de films scientifiques, mais aussi journaliste, dessinateur de presse. Et vous avez donc eu envie de relever ce défi insensé, de mettre encore plus de sel dans tout ça. On va y revenir. Je propose d'abord d'écouter la bande-annonce de Peau d'âme.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Oui, c'est ça. Ça pourrait être sur les costumes.
Pour nous, c'est l'arrière du miroir.
Ça pourrait être aussi le manche de la baguette.
Et vous l'avez pas vu, la baguette, à la Cinémathèque ?
Si, mais justement, la baguette...
Il manque des pièces ?
Il manque des pierres.
Ah. Si on confronte à l'image du film...
Non, pour exactement la même forme.
Voilà, il n'y a absolument aucun doute. Bon, on n'a plus les roses accrochées.
Laisse-nous, toi, va jouer dehors.
Qui prétendra que les archéologues ne sont pas des alchimistes ? Pure magie, qui en une seule photographie métamorphose un tas de clous en vestiges archéologiques.
Et donc tout commence par « si peau d'âne m'était comptée », et il rajoute « j'y prendrais un plaisir extrême ».
Un plaisir extrême, alors à fouiller le chantier de peau d'âne, mais Pierre-Oscar Lévy, on a l'impression un plaisir extrême à filmer et puis à réaliser cet ovni cinématographique qui mêle du conte, le film, la vraie fouille archéologique et des trésors qui émergent tout le
voilà,
temps.
Voilà, puis l'écologie, puis plein de choses. Mais moi, je prends un plaisir extrême à bousculer la discipline.
Alors, la discipline archéologique ou cinématographique ?
Les deux.
D'accord.
C'est-à-dire, ce qui est bien dans ce film, c'est que on a des scientifiques absolument formidables et très sérieux et qui se prêtent au jeu, qui chantent. Ça finit par, comme une comédie musicale. Et donc, ça montre bien que la culture, elle est très large et qu'elle n'est pas par matière et qu'on peut absolument parler dans un même film de sujets, de genres, de disciplines différentes, et que ça fait pourtant un seul récit.
Et on rejoint ce que nous disaient Macha et Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est vraiment là dans du sensible, dans de l'intime, dans du singulier, de l'universel. Il y a de la science, il y a de la culture, et puis il y a l'âme dans vos... que ce soit dans l'âme, dans peau d'âme ou dans les âmes offensées, il y a à chaque fois le mot âme dans le titre, et c'est pas un hasard, j'ai l'impression. On touche à l'âme humaine en science, au cinéma, avec de la musique, avec du son, avec des objets. Olivier Véler,
en fait, Macha. J'ajouterais volontiers un peu de fantaisie,
oui,
autant dans
absolument.
Le film que dans notre spectacle. Quelque chose a lieu de ce côté-là, qui est le pas de côté, qui fait que tout est plus abordable et il y a quelque chose de plus lumineux, du coup.
Et c'est aussi notre condition humaine, finalement. Elle peut
oui.
être tragique, désespérante, et en même temps, on a
absolument.
Tous de l'humour, et,
oui.
on, et heureusement qu'on peut
ça
en rire et le retourner à l'envers. Enfin, vraiment, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, alors, dans ce peau d'âme, archéologie du film Peau d'âme, c'est pas tout à fait un hasard si vous avez choisi l'archéologie de ce film, j'imagine, Olivier Véler, parce que on est quand même, comment dire, dans du mythe aussi, dans de l'imaginaire, mais qui est bien lourd.
Dans du très, très lourd.
Dans du très, très lourd. Et il
oui,
s'agit de rappeler quoi, l'interdit de l'inceste.
Et oui,
dans ce
c'est, quand même, un père qui veut coucher avec sa fille.
Donc c'est pas rien.
Donc c'est pas rien, voilà. Et c'est du lourd, donc effectivement, à la fois, là, à travers le film, on fait de la science en s'amusant. Et puis on ne montre pas ce que réussit à faire Pierre-Oscar Lévy, c'est on ne montre pas les résultats de la science. Comme dans un documentaire classique, on montre la science en train de se faire. C'est-à-dire, les archéologues, ils ont quoi ? Ils ont les mains dans la terre, ils ont les bottes pleines de boue. Donc c'est aussi très sensible, et c'est un travail très sensible aussi, l'archéologie, en termes de terrain, en termes de matérialité. Donc c'est fort. Après, effectivement, derrière, qu'est-ce que c'est ? Derrière, c'est l'interdit de l'inceste. Claude Lévi-Strauss, anthropologue, nous disait que c'était le premier interdit fondateur des sociétés humaines pour qu'on puisse vivre ensemble, nous les humains. C'est le premier interdit. Donc effectivement, l'archéologie de ces décors de cinéma de Jacques Demy, c'est aussi l'archéologie de ce récit, et c'est d'arriver à remonter à ce récit, donc cet interdit de l'inceste, et de le remonter à travers le temps, puisque Demy, en 1970, bah, il fait une version de ce conte de fées, en s'inspirant d'une version de 1826, qui lui-même s'inspire du conte de Charles Perrault connu, mais qui lui-même recopie des contes napolitains, qui eux-mêmes, voilà. Et donc l'idée, c'est de l'archéologie comme ça, des poupées emboîtées, si j'ose dire, et de remonter à la préhistoire. histoire, en fait.
C'est ça. Là se rejoignent aussi quand même vos deux démarches. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit du sensible, effectivement, des scientifiques sur le terrain qui mouillent leurs chemises, leurs bottes et pas que, leur âme aussi dans tout ce qu'ils vivent, qui, comme le disait Macha ou Philippe, en laisse quelque chose, se consume quelque part. Et puis remonte le temps. Finalement, c'est des poupées russes de notre humanité, Philippe Gesselin. Là, on a l'impression qu'il y a
oui,
vraiment
quelque chose de proche. Oui, moi, j'aime beaucoup l'expression. La science est en train de se faire, c'est ce qui nous caractérise à travers ces deux spectacles, en fait. Moi, ce sont mes carnets de terrain qui sont mis en scène. Donc, c'est une pensée en éclat. C'est pas une pensée construite a posteriori, et même si on a quand même retravaillé le texte de manière à ce que ce soit compréhensible et accessible au plus grand nombre, mais ça reste malgré tout une pensée en train de se construire. On part des carnets de terrain qui sont les miens, et voilà, donc on est très très proche dans en ce sens-là, ouais. Olivier et moi, dans la démarche.
Et puis les questions du mythe aussi, vraiment, dans l'un et l'autre exercice artistique qu'on propose, il y a immédiatement l'humanité et les mythes, c'est la même chose, c'est la même façon de raconter le monde et de pouvoir être au monde aussi. S'il n'y avait pas ce phare du mythe, on irait où, vers où, on irait nulle part. Et sans arrêt, dans les carnets de Philippe, il y a ça. Et moi, j'ai tellement aimé dans le film l'allusion au conte napolitain avec sa violence, l'idée d'être une ours. Voilà, quelque chose d'absolument universel qui fait qu'on... Là aussi, on vit, on survit, on persiste. L'humanité va persister parce qu'elle invente des mythes.
À propos de mythes, justement, et pour ceux qui l'auraient oublié, je propose d'écouter les conseils de la fée Lila, histoire de bien se rappeler cet interdit-là.
La situation mérite attention. Mon enfant, n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants. Et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manié quand c'est...
Les conseils de la fée Lila sur RFI, extrait du film Peau d'âne de Jacques Demy, interprété par Christine Legrand. Nous voilà vraiment en plein dans les mythes. Alors le mythe de la prohibition de l'inceste, il y a plein de mythes aussi, Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Olivier Véler, dans ce film Peau d'âne, dans le vrai, hein, pas dans le... Enfin dans le vrai.
Dans le vrai, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de fou.
Vrai, y a pas de fou. Voilà,
dans celui de 1970, moi. Oui, c'est sûr.
Voilà, exactement. Mais je ne pensais pas un jour passer dans cette émission de science, de recherche, les conseils de la Félila, et pourtant ça passe bien.
Et pourtant Delphine Seyrig, oui, est une fille d'archéologue et d'un archéologue qui a construit l'Institut français d'archéologie orientale à Damas, et elle a passé sa vie enfant à parcourir le monde pour suivre son père.
Comme quoi tout se retrouve, et pour ce qui est de cet interdit, de cette prohibition de l'inceste, Philippe Gesselin, chez les derniers Inuits, enfin chez les Inuits qui vivent aujourd'hui au Groenland, évidemment qu'il y a, comme partout ailleurs sur la Terre, cet interdit-là.
Oui, et puis, bien souvent sans le savoir, on vit matériellement, concrètement, cette prohibition, parce que, typiquement, chez les Inuits, on en parlait tout à l'heure, on en parle dans les âmes offensées, prohibition de l'inceste, on empêche le frère de coucher avec sa sœur, donc la jeune fille s'enfuit comme ça et se transforme en lune et le frère se transforme en soleil et c'est pour ça que parfois quand le frère réussit à retrouver sa sœur, apparaissent les éclipses de lune. Et ça a une matérialisation très concrète, c'est que quand vous allez chez les Inuits, les femmes encore aujourd'hui ont leur propre couteau, le fameux oulu, qui est un couteau qui a une lame en forme de demi-lune. Et je suis même persuadé que bon nombre d'Inuits ne connaissent pas l'origine de ce couteau. C'est le couteau des femmes, le oulu, et les hommes ont de leur côté leur propre couteau, qui n'a rien à voir, qui est un couteau classique. Et donc, à la base de cet objet, vous avez un mythe autour de la prohibition de l'inceste, une histoire de frères et de sœurs qui se poursuivent dans le ciel, comme ça. Et qui...
Les objets racontent énormément de choses, Macha Makeyev, les objets de l'archéologie, les objets de l'ethnologue. Vous aimez beaucoup les objets, vous construisez des décors, vous les cherchez, parce que les objets disent quoi de nous ?
Oh, c'est une obsession, c'est une névrose, c'est vrai, je ramasse tout le temps. Mais c'est aussi dans cette conversation-là que la rencontre s'est faite avec Philippe, puisque Philippe était venu vraiment, nous, au théâtre, nous observer comme une tribu, avec nos rituels, notamment avec les objets.
Théâtre.
Ah oui, il a fait ça aussi, ce garçon. Donc, c'est intéressant aussi de voir, là aussi, le terrain sacré qui est le théâtre et tous nos rituels. Et quelque chose peut exister au théâtre nulle part ailleurs à cause de ça. C'est-à-dire qu'on réinvente sans arrêt quelque chose de l'ordre du mythe aussi, du sacré, de la célébration. Et même si c'est avec la fantaisie, toutes les armes sont possibles, mais voilà, ça à voir. Et le goût des objets, bien sûr, c'est quelque chose qui est important parce que c'est comme un condensé d'humanité. Et puis il y a ceux qui sont ratés, et puis il y a ceux qui sont à côté, ceux qui sont abandonnés, délaissés. Et puis quand on s'en va, qu'est-ce qu'on emporte ? Qu'est-ce qu'on laisse ? C'est une question fondamentale.
Question fondamentale qui intéresse évidemment les archéologues, Olivier Véhard.
Et on en laisse des choses.
Et on en laisse des choses. Et vous avez trouvé, enfin, sur ce tournage-là, sur les lieux du tournage de Peau d'Âne, vous avez trouvé un nombre incroyable d'objets. Vous y attendiez à en trouver autant de trésors.
Alors d'abord, il faut savoir qu'on a fouillé donc la cabane de Peau d'Âne. La cabane donc, qui est située dans un parc de château aujourd'hui et donc qui représente le lieu de réclusion de la princesse et de transformation, si j'ose dire, de la princesse qui va découvrir son futur prince au fond des bois. Et donc, il y a un lieu de passage, un lieu d'initiation aussi, cette cabane. Donc, c'est cette cabane qu'on a fouillée, donc une cabane où il y a eu 9 jours de tournage, 30 à 35 personnes autour pendant 9 jours, et on a 4000 objets. Donc, effectivement, on n'attendait pas autant d'objets.
4000 objets sur 9 jours de tournage, ouais. Des années après.
30 personnes, 30 à 35 personnes, voilà.
Et des objets, alors
Alors, ces objets, ils racontent trois histoires, si j'ose dire. Ils sont à la fois des éléments du décor qu'on peut voir quand on regarde le film, des éléments de costume, puisqu'on a les seuls restes de la robe couleur soleil, par exemple, portée par Catherine Deneuve.
Donc ça a bien existé, une robe couleur soleil. Hein.
Les strass Swarovski qui étaient cousus sur le plastron de la robe sont tombés, et ces robes ont aujourd'hui disparu, donc nous avons les seuls restes, les seuls témoins matériels. Et puis on a aussi des objets techniques qui nous racontent les techniques du cinéma de la fin des années 60, avec des ampoules de projecteurs, des pieds de serrage de projecteurs, des scotchs, de la bande magnétique sonore. D'ailleurs, on doit la restaurer pour faire de l'archéologie du son, parce que c'est ça, l'archéologie de l'imaginaire. Là, c'est aussi une archéologie de l'invisible, de la fabrique des images animées, là, en s'intéressant au cinéma. Et donc là, on peut aussi, on a l'occasion de faire de l'archéologie du son, de l'archéologie
sonore.
C'est
une boîte de Pandore. Hein,
quand on tire. Et puis, on a le troisième domaine, si j'ose dire, c'est la vie domestique, c'est-à-dire des mégots de cigarettes, des capsules de bière, des fumes cigarillos, une bouteille d'eau, des viandes 1000 millilitres, voilà. Donc des choses de la vie quotidienne
d'une équipe. Et qui vous permettrait, qui vous aurait permis, si vous ne saviez pas que c'est le tournage d'un film, de voir, par exemple, c'est le tournage d'un film où, je sais pas, un archéologue, dans 100 ans, dans 200 ans, il dirait quoi ? Il dirait, il vivait comme ça à l'époque.
Il dirait, ce site est étrange parce que il mélange du matériel qui ne devrait pas être mélangé, à savoir, entre autres, le matériel des techniques du cinéma. On a à peu près une centaine plus d'une centaine de petits fragments de verre bleu, très couleur cobalt, là, très très flash, qui sont des ampoules de projecteurs, en fait, des floudes, qui n'ont absolument rien à faire dans une cabane au fond des bois. Donc, voilà, ou une amorce de pellicule qui n'aurait absolument rien à faire, ou un noyau de pellicule de 35 mm qui n'a rien à faire, a priori, au fond d'un parc, d'un château.
Mais Pierre-Oscar Lévy, est-ce que vous vous rendez compte avec ce nouveau tournage, vous avez de nouveau laissé des traces, c'est que peut-être qu'un archéologue, plus tard, va revenir inventer une autre histoire ou parler à notre imaginaire.
Oui, mais j'ai absolument persuadé que quoi qu'on fasse, on laisse une empreinte et on laisse des traces. Et donc, moi, j'avais réalisé des documentaires sur la grotte Chauvet et je me suis aperçu que même quand on fait très très attention à ne pas laisser de traces pour ne pas abîmer le sol archéologique, on laisse plein de choses. Il y a plein d'empreintes, quoi qu'on fasse. Et ça, par exemple, ce film-là le montre aussi d'un point de vue écolo, c'est qu'il n'y a aucun moyen... Chaque fois qu'on fait quelque chose,
on laisse
des traces, et que ce soit pour la police scientifique immédiatement ou pour les archéologues dans quelques centaines d'années, oui. Mais bon, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de souvenir de notre passage à nous.
Un souvenir dans l'imaginaire, parce que vous avez aussi mêlé le conte. Enfin, c'est vraiment... c'est pas un conte scientifique, c'est vraiment un ovni. Je ne sais pas comment qualifier ce film, qui marche bien d'ailleurs, tant mieux. Mais vous avez mêlé, oui, l'imaginaire tout de suite. Ça vous est venu tout de suite, cette idée de évidemment des extraits de films, mais... et quelque chose de loufoque, de dérisoire aussi, et de très fort, les deux en même temps.
Ben, moi, ce qui m'intéresse de faire depuis que je fais des films, c'est de montrer, par l'exemple, par l'expérience pour le spectateur, qu'on s'amuse beaucoup avec la culture, avec la parole, avec les mots.
Et quand vous dites culture, ça peut être culture scientifique, hein, les deux.
Parce que les sciences, c'est pas quelque chose... En France, il y a un sentiment comme ça, ça serait d'une rigueur et de quelque chose de coupé de la littérature ou de la peinture, etc. Et moi, mon sentiment depuis que je travaille ça, c'est que... Bah non, ça fait absolument partie d'un corpus culturel, et il n'y a aucune raison de ne pas avoir autant de plaisir à s'intéresser à une question scientifique que de s'intéresser à un texte de théâtre ou à regarder un tableau. C'est de ça dont il est question dans le film aussi, quoi.
Bah là, c'est le... Olivier.
Oui, je crois que nos deux expériences, en fait, que ce soit au théâtre ou au cinéma, ce qu'on essaye, c'est de casser effectivement ce mythe de l'objectivité du scientifique, qui n'a pas lieu d'être, en fait. Donc avec
il n'est pas plus objectif que le spectateur qui vous regarde et qui en retire ce qu'il en veut. Évidemment. Il y a quand même un lieu peut-être où vous êtes objectifs tous les deux, Philippe Gesselin et Olivier Véler, et qui vous rapproche, hein, qui rapproche l'ethnologue et l'archéologue que vous êtes, c'est autour du sel. Parce qu'Olivier Véler, vous êtes spécialiste du sel, au néolithique, et oui, c'est un grain de sel qui vient se mêler dans cette émission. Et Philippe Gesselin, vous avez aussi travailler là-dessus, et en tout cas quand vous allez chez les sous-sous de Guinée, on parle du sel.
Oui, on s'est d'ailleurs rencontrés, Olivier et moi, il y a de nombreuses années, autour du sel et de la saliculture. Oui. J'ai eu la chance de pouvoir travailler, comme je pratique une forme d'anthropologie appliquée, donc en fait je réponds aux besoins des populations, je co-construis avec elles, en fonction de leur manière de penser et d'agir dans des contextes particuliers, des techniques, des produits, des objets... Voilà, et on m'avait demandé de travailler avec les populations soussous pour enrayer la déforestation des zones de mangroves en Guinée et enrayer cette déforestation à travers la conception d'un système de saliculture solaire. Voilà.
Saliculture solaire, ouais. C'était d'usage au néolithique, Olivier Véler,
le marais salant, c'est compliqué à mettre en évidence pour la préhistoire à cause de la remontée du niveau marin, donc ça c'est un peu compliqué. En revanche, autour de sources salées ou de mines de sel, là on a plus d'informations. Mais en fait, ça nous rejoint en fait, parce que le sel c'est aussi, alors là pour la préhistoire, c'est quelque chose d'invisible. Et donc, en fait, quand on s'intéresse au cinéma et à l'archéologie d'un conte de fées, c'est aussi de l'invisible. Donc, on s'intéresse dans les deux cas à quelque chose qui n'est pas matérialisé sur le terrain, voilà, qui n'a pas de matérialité évidente. Après, moi-même, j'ai fait pas mal d'ethno-archéologie, donc j'ai fait de l'anthropologie. Donc, en fait, ce que raconte Philippe avec ses cahiers de terrain, ça me parle beaucoup. J'ai pas mal travaillé en Nouvelle-Guinée, sur la partie indonésienne de l'île.
Toujours sur le sel, hein.
Sur le sel, voilà, et dans les coins un peu reculés. Donc, en fait, ces expériences très sensibles du terrain, que ce soit sur la fouille avec des petits objets ou que ce soit avec des gens, la parole, la vie partagée pendant 2 mois, 3 mois, moi, ça me parle énormément. Effectivement, c'est ce sensible qu'on essaye, je crois, chacun de
mettre en avant. Alors, pour partager ce sensible, justement, je propose d'écouter un autre extrait du triptyque des âmes offensées, cette fois-ci chez les Soussous de Guinée.
Je me souviens de cette visite au Karamoko avec mon ami Ferdinand. J'attends dans la cour de la concession, un homme borgne arrive. Il me demande de le suivre et à ce moment précis, je me demande aussi ce que je viens faire là. J'entre dans une petite pièce. Elle est sombre. Sur le lit, assis, un homme aveugle aux yeux d'argent. Il porte un gilet de corps, genre Marcel, et un simple pantalon brun, en tergale, rapiécé. Il me tend la main, me salue. Une vannerie d'un bon diamètre est posée sur le drap. Elle renferme 11 petits coquillages, des coris. Le borgne entre dans la pièce. Il nous offre du thé sucré et mousseux dans de petits verres. J'offre 5000 francs guinéens. Le Karamoko crache sur le billet, me le rend et me demande de dire mes souhaits en silence. De sa main droite, il jette les coris à intervalles réguliers, par série de 11, de 10, de 7, puis de 5. Après 3 quarts d'heure, il nous dicte la liste des sacrifices que nous devons réaliser pour que les vœux s'accomplissent.
Vous avez fait ce qu'il fallait, je crois, Philippe Gesselin. Pourquoi les vœux s'accomplissent ?
J'ai fait ce qu'il fallait. Je ne parlerai pas de mes souhaits, mais j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai regroupé tous les produits, toutes les denrées, et on les a distribués aux personnes qui nous avaient été désignées. Voilà. Comme je le dis dans le spectacle, on a créé du lien social entre différents représentants de cette société Soussou.
C'est ça, parce qu'en fait, on est encore là dans l'invisible, dans le mythique, dans les croyances.
Et dans les objets.
Et dans les objets. Et dans ce qui fait lien entre nous tous, parce qu'à travers toutes ces histoires singulières qui semblent nous parler que de l'ailleurs, on ne fait que parler de nous-mêmes, Macha Makeyev.
Oui, puis au théâtre, il faut être très minimaliste. Il n'était pas question d'un décor somptuaire, etc. Donc c'est comme un écran, comme une planète, et quelques objets là, posés là, et qu'on découvre ou qu'on déplace, et la présence du sel notamment, bien sûr, mais la matière aussi, quelque chose immédiatement organique pour chacun des spectacles, chacun des voyages.
Oui, parce qu'il y a 3 voyages.
Voilà, et avec ce minimalisme, quelque chose se dit, et ce discours qui prend en compte cette l'étroitesse de l'espace. Ce que j'aime au théâtre, c'est qu'on transcende les échelles. Le dispositif est tout petit, et on part très loin, et on va très loin. Et à la fois, quelquefois, l'ethnologue est tout petit, il est perdu. Et quelquefois, au contraire, il est dans sa pensée, il prend tout l'espace. Et le théâtre permet ça.
Et quelquefois aussi, nous, spectateurs, on parle beaucoup des objets, des traces que l'on laisse. Mmh. Mais ça nous renvoie aussi, nous, spectateurs de pays occidentaux, bien nourris, aux masses d'objets que nous avons et au destin d'autres, ailleurs, qui sont des hommes et des femmes tout autant que nous, si ce n'est parfois plus, et qui ont beaucoup moins d'objets. On est aussi face à d'autres réalités qui nous renvoient à la nôtre, qui nous posent question, qui nous interrogent et qui vous interrogent, Gislain.
Oui, je pense que on vit dans un univers entouré d'objets. Regardez autour de nous dans ce studio.
Il y a des ordinateurs, des micros, des stylos, des
verres.
C'est
ce qui aussi me plaît beaucoup quand je pars travailler comme ça au sein de ces communautés. C'est cette espèce de... Je me sens démuni matériellement. On a peu de choses, sauf au Groenland, chez les Inuits. Typiquement, les maisons sont entourées d'objets. On les conserve. Alors, avec cette beauté toute particulière, puisque moi, je vais souvent là-bas en hiver, et ces objets sont couverts de neige, noyés sous la glace. On a un bout de crâne d'ours polaire qui apparaît quelque part, associé à un vieux lustre, une vieille machine à laver. Et tout cela est très très poétique aussi, et en dit long aussi sur le rapport que ces sociétés entretiennent aux objets, et aussi sur la cette accumulation de choses qui dépend aussi des rencontres avec nos propres sociétés, avec nos propres manières de penser et d'agir. Chez les Maasai aussi, c'est la même chose.
C'est-à-dire qu'il y a des... On est bien aujourd'hui, en 2018, partout sur la planète.
On pourrait faire une archéologie de la diplomatie uniquement en travaillant sur les objets présents dans les communautés du bout du monde. Je pense qu'Olivier sera d'accord.
Les restes sont précieux quand même. Les restes, les traces... Ce qui demeure, ce qui est les abandonnés sont extrêmement précieux.
Les abandonnés sont précieux, oui. Ces âmes offensées sont un peu aussi parfois des âmes abandonnées, Olivier, vous voulez réagir?
Oui, et puis c'est bien qu'ils soient abandonnés parce que ça nous fait du travail à nous, archéologues aussi, hein, quand même. Parce que il y a un collègue préhistorien sur la fouille de Pau d'Âne, là, qui me disait, mais ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, c'est une archéologie de la pensée écologique. C'est-à-dire, faire une archéologie de notre relation à nos déchets. Comment on vit avec nos déchets, comment on les gère, comment on veut les voir, comment on ne veut pas les voir, comment on les met en évidence autour de la maison, par exemple, à certains endroits, comment dans d'autres endroits on va les enterrer, les enfouir. Évidemment, ils sont toujours là, derrière. Hein.
Mais on les cache.
Et donc, j'aime bien cette phrase de René Char, là... justement sur cette idée des traces, qui disait un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves, seules les traces font rêver.
Seules les traces font rêver, à méditer autour de la question, comment rendre sensible l'aventure scientifique, comment traduire peau d'âme et les âmes offensées. Je propose d'hier à aujourd'hui d'écouter un rap inouï et inuit que vous nous avez fait passer, et Macha et Philippe. Et inuit, hein, c'est ça, sur RFI. Du rap inuit sur RFI, Philippe Gesselin. Bon, j'ai fait un drôle de jeu de mots, c'est assez inouï, mais c'est vrai que, oui, on n'a pas tellement l'habitude d'en entendre, disons.
Non, je pense que c'est important d'écouter ce rap inuit parce que il nous montre que ces jeunes adolescents sont pareils aux adolescents de nos sociétés. Hein. Ils vivent à travers la musique, aujourd'hui encore, bien sûr. Ils portent des jeans, de pantalons bas sur les fesses, des t-shirts par moins 20 degrés. Voilà, et puis c'est une façon aussi de dire, voilà, regardez, on porte sur ces sociétés des représentations qui sont parfois un peu erronées, quand en fait elles vivent, elles, de leur côté, au même rythme que nos sociétés. Mmh. Voilà.
On est tous en 2018 sur cette planète.
Mais bien sûr, on est tous en 2018 sur cette planète. Les communautés se transforment, ne disparaissent pas, elles se transforment.
Et c'est pour ça qu'on parle de
la continuité des mondes. C'est important, ça.
La continuité des mondes. Rompre
avec ce discours classique qui consiste à parler de cette disparition des communautés. Je pense ces communautés se transforment et c'est tout l'intérêt de l'ethnologie que de montrer les façons dont ces communautés, avec leurs pattes, se transforment à travers le monde.
Vous allez repartir justement enquêter sur cette continuité des mondes. Je crois qu'on ne vous retient pas, même Macha Makayev sur les planches n'arrive pas à vous retenir finalement.
Non, là je repars chez les, alors pour le coup, chez les derniers chasseurs-cueilleurs de Tanzanie, d'Afrique de l'Est, les Hadza, où je travaille sur, je fais des enquêtes ethnophotographiques pour le coup, sur le rapport que ces communautés de chasseurs, qui ne vivent que de cela, cueillette et de chasse, entretiennent avec la ressource en eau. Dans la vallée du Rift.
On rejoint les préoccupations écologiques, sensibles.
Bien sûr,
évidemment.
Elles y sont confrontées au quotidien.
Olivier Véler, vous allez continuer à fouiller ce terrain après Peau d'Âne et continuer à fouiller le film de Demi Peau d'Âne, le terrain archéologique.
C'est prévu pour cet été, donc avec. La petite équipe constituée de bénévoles et qui n'est constituée que de princesses, que de filles.
Ce ne sont que des princesses qu'on a entendu chanter un peu tout à l'heure.
Exactement. Donc, on va poursuivre et terminer normalement la fouille de la cabane de Peau d'Âne cet été, là, au mois d'août.
Et après, vous allez quoi? Vous spécialisé dans l'archéologie du cinéma, de l'invisible,
non.
De l'imaginaire.
Ouais, alors, souvent les gens me disaient « Ah mais après tu vas aller fouiller Star Wars ». Alors au départ je me disais « Mais non, il n'y a aucun rapport ». En fait si, puisque Star Wars c'est de la mythologie grecque.
Et c'est du mythe, bien sûr.
C'est du mythe, donc oui. Alors il y aura un intérêt. L'intérêt de Peau d'Âne, c'est la profondeur historique, c'est le récit, c'est le conte, c'est l'interdit de l'inceste qu'il y a derrière. Sinon, c'est l'archéologie du cinéma pour le cinéma, je ne vois pas trop l'intérêt là. Donc après il y a d'autres projets, mais... Je vous laisse la surprise.
On vous réinvitera pour ces autres projets. On peut en tout cas en profiter pour faire quoi? Un petit appel du pied aux instituts français dans le monde pour qu'ils vous invitent avec Pierre-Oscar Lévy pour venir présenter Peau d'Âne, qui est vraiment un drôle d'objet. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ouais. Il est maintenant, il peut être visible en VOD. Le lien est sur notre page. Il va sortir en DVD, mais enfin, le voir en grand écran, ce serait pas mal.
Il est encore en salle à Paris pour ce week-end qui est le week-end des Journées Nationales
de l'Archéologie.
Donc on a trois projections au Luminor et au Nouvel Odéon à Paris, mais on aimerait bien effectivement sortir du périphérique parisien, à la fois sur le territoire national et évidemment sur l'ensemble de la francophonie, parce que voir plus, parce que l'archéologie contemporaine, en fait, c'est une archéologie qui parle énormément et qui parle encore plus dans le monde de nos anciennes colonies, dans les DOM, les TOM. C'est vraiment une archéologie qui parle avec sur fond de colonialisme, sur fond
d'esclavagisme. Parce qu'il y a de l'archéologie du colonialisme. Exactement. Et l'archéologie de l'esclavage.
Et l'archéologie du XXe siècle, c'est quelque chose vraiment où on travaille avec du sensible, avec de l'histoire, parfois avec des souvenirs, c'est-à-dire des gens encore vivants avec une parole. Et donc, c'est très, très riche. Donc, nous, c'est effectivement, on est du côté de l'imaginaire, du conte de fées. Mais je crois qu'il y a un vrai lien et un vrai travail à faire avec les gens, avec les populations autour de cette archéologie de l'imaginaire et du XXe siècle.
C'est dit, merci infiniment à vous tous d'être venus en direct. Merci Philippe Gesselin, merci Macha Makayev. Votre spectacle, Les âmes offensées, c'est à voir absolument, si vous êtes à Paris, amis auditeurs, au Théâtre Lévi-Strauss, au Musée du Quai Branly, les 15, 16 et 17 juin. Et puis, vous continuerez de tourner, je l'espère, en France et ailleurs. Je signale aussi, Philippe Gesselin, l'ouvrage Carnet d'un paysan sous-sous, Carnet de Nfassori Bangoura, L'oiseau qui avait enterré sa mère dans sa tête. Très joli titre qui est publié aux éditions Des Citres. Merci Olivier Véler, merci Pierre-Oscar Lévy. Votre film, oui, Pierre-Oscar Lévy.
Juste, je suis le 20 juin au cinéma Le Rio à Clermont-Ferrand.
Eh bien, nous le signalons à nos auditeurs pour la projection de Peau d'Âne qui sera donc projetée ce week-end pour les Journées Nationales de l'Archéologie à Paris et en France. Et je signale à nos amis auditeurs et internautes que Peau d'Âne est aussi disponible en VOD. Le lien est sur notre page et bientôt, oui, en DVD, qu'on se le dise. Et là, on entend de la musique Maasai. On se quitte là-dessus.
Pour nous contacter, autour de la question, @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI. Au plaisir de vous retrouver lundi avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre fidélité, amis auditeurs, et de votre curiosité. Merci pour vos messages qui nous touchent et nous inspirent. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, prochain journal dans une minute. 7 millions.